Donc, on a fait à plusieurs, avec moi comme coordonnateur et responsable, une recherche qui s'appelle Teresa pour le programme déchets et sociétés de l'ADEME, l'agence qui s'occupe de la maîtrise de l'énergie, de l'environnement. Cette recherche, elle a eu de multiples terrains que je vous montrerai, mais surtout, elle est partie d'une question que je vous demanderai de garder à l'esprit, qui était une question somme toute banale que chacun peut se poser, mais quand on la regarde du côté synthétique, du côté social, du côté macro, on n'a pas forcément de réponse. Cette question est: que fait-on des objets dont on ne sait que faire ? Des objets que nous avons aussi appelés les objets surnuméraires. Cette question, aussi banale soit-elle en apparence, au fond, ne reçoit pas de réponse simple. Car nous n'avons jamais été aussi fortement entourés d'objets depuis, l'explosion de la société de consommation dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Une estimation donne une évolution de 500 objets à 5000 objets dans notre environnement domestique immédiat. Je suis incapable de soutenir ce chiffre. Il donne un ordre de grandeur, si vous voulez, mais je croyais qu'il apparaissait dans un ouvrage de Dominique Desjeux sur les déménagements, mais je n'ai jamais réussi à remettre la main dessus. Donc, ce n'est pas grave. Partez de l'idée tout de même, et vous le voyez chaque jour autour de vous, que les objets, ils ont une vie propre. Ils nous entourent, ils nous assaillent, ils viennent là. On ne sait pas trop comment. Et si on ne fait rien, comme disait l'une des interviewées de cette enquête, c'est eux ou nous. Donc c'est aussi un peu une confrontation, voire une lutte avec les objets, et aussi une histoire d'amour, bien sûr, puisque nous sommes tous ici venus de sociétés de pénurie et que les choses se transmettent entre les générations. Et même si nous, ou vous, moi si, mais vous pas, n'avez pas vécu la pénurie, certains souvenirs de la pénurie se transmettent. Donc on va y venir. Une série de paradoxes. Nous n'avons jamais eu affaire à autant d'objets. Production de masse, consommation de masse, baisse des coûts, importation massive et j'en passe. Tout ça, ça constitue des objets qui se multiplient, et pourtant, la société de consommation nous a éduqués depuis 50 ans au moins à jeter, à s'habituer à l'idée du jetable, qui n'est pas du tout une idée qui va de soi. Dans toutes les sociétés, même celles de la modernité, où une certaine rareté était à gérer, le jetable n'avait pas de sens. Donc c'est dans la société dite d'abondance, celle des Trente Glorieuses et après, que sur le modèle américain, nous avons adopté cette idée que les objets puissent être jetables, et puis l'obsolescence programmée ou pas des objets, la forte rotation nécessaire des objets pour entretenir la croissance de l'économie et la consommation, et la production, et la consommation, et la production. Donc ce cercle que vous voyez se nourrir comme un serpent qui se mord la queue l'un de l'autre, eh bien, il n'a jamais réussi, au fond, à nous éduquer à cette attitude par rapport aux objets. D'un côté, nous sommes de plus en plus entourés d'objets. De l'autre, nous avons cette éducation intensive au caractère éphémère des objets ou à l'acceptation du caractère éphémère des objets et un caractère de plus en plus éphémère de certains objets. Et jamais la tendance à sauver les objets n'a été aussi forte. Je mets « sauver les objets » entre guillemets parce que ça rappelle le credo, ou c'est devenu un credo aussi fort que sauver les baleines dans les années 70. Un tas de sites internet, de dons, de ventes, des vides-greniers, des visites dans les brocantes, etc., pour sauver les objets, quelle que soit la chose que ça signifie. Parce que qu'est-ce que ça signifie, sauver des objets? Le sauvetage des objets est un sport national, au moins en France, mais pas seulement, assez répandu. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré vous-même, mais nous, sur le terrain, on l'a beaucoup rencontré. Donc, que fait-on des objets dont on ne sait que faire? Et accessoirement, une seconde question, assortie d'un ensemble d'hypothèses, que les gens qui ont adopté un style de vie alternatif auraient tendance, plus souvent que les autres, à, disons, avoir une attitude différente aux objets, une attitude plus frugale, entendant par là plus sobre, plus retenue, acheter moins d'objets, utiliser moins d'objets, parce qu'ils font attention aux ressources et à l'environnement, et de ce fait ne sont pas aussi insouciants que les consommateurs moyens sont susceptibles de l'être. Je pense que personne ne l'est, mais ils sont supposés être insouciants. Donc, comme je le disais, cette compréhension des rapports aux objets et accessoirement de l'encombrement, qui est un amoncellement d'objets, et en particulier d'objets surnuméraires, c'est-à-dire dont on ne sait que faire, et comparaison entre les alternatifs et les consommateurs ordinaires, comme je l'ai dit, nous conduisait aussi à l'idée de vouloir comprendre le désir de sobriété ou de simplicité qui s'est emparé d'un certain nombre de gens, que ce soit dans des groupes organisés, dans des groupes sur Internet ou dans des associations militantes ou même individuellement, chacun à se poser la question dans certains milieux, évidemment, pas partout, mais pas tant que ça non plus stratifié, au sens où ne partez pas de l'idée qu'aurait avancé Bourdieu et que Bourdieu a avancé, hein, Bourdieu le sociologue, que l'attention à l'environnement et donc conjointement la sobriété, la simplicité seraient des éléments de distinction qui appartiennent aux classes moyennes instruites et aisées et ne sont que ça. Parce que justement, ça va au-delà de ça. Le problème est à la fois plus général et plus complexe. Il y a un certain poids de la stratification, hein, qui se traduit par des pratiques un peu unifiées dans différents segments de la population. Mais ce n'est pas le seul argument, ce n'est pas le seul élément, pardon. Le second élément qu'il ne faudra jamais oublier, c'est celui de la culture. Et j'expliquerai plus tard ce que j'entends par là. Mais déjà, quand on dit culture, pour moi, qui me réfère aux travaux de Mary Douglas, qui est une anthropologue, j'entends par là des styles de pensée. Et ce sont ces styles de pensée que nous avons cherché à repérer, que nous avons reconstitué ex post à partir des terrains que nous avons investis et qui nous ont permis de voir comment on peut faire des types de rapports aux objets. Il y a dans chaque culture, dans chaque organisation sociale, quatre styles de pensée qui coexistent, pas toujours harmonieusement, parfois de manière conflictuelle. Parfois, un style de pensée devient dominant, devient omniprésent. Parfois, il coexiste de manière plus ou moins pacifique entre des strates différentes de la société. Parfois, il change massivement. Évidemment, la question qui se pose toujours in fine aux sociologues, c'est quel changement se profile et quelles sont les dynamiques de ce changement, comment il se produit. Et pour faire une petite parenthèse pour les plus universitaires d'entre vous, C'est exactement la question que ne se posent pas les anthropologues. C'est l'une des choses qui fait la différence entre le sociologue et les anthropologues, sachant qu'ici, sur le terrain, on a adopté un double point de vue, anthropologique et sociologique, ou socio-anthropologique, parce qu'on s'intéresse à l'organisation de la vie matérielle et on est obligé d'avoir ce regard-là à la fois sur la culture et sur les pratiques. Pour cela, on a utilisé la méthode des itinéraires, voire des biographies d'objets ou des récits de vie centrés sur le rapport aux objets. Alors, c'est assez intéressant si chacun d'entre vous, vous imaginez qu'un enquêteur vient chez vous et vous demande, bon, alors, dans votre vie, depuis votre naissance et jusqu'à maintenant, est-ce que vous pouvez me dire quel est votre rapport aux objets ? Pas comme ça, parce que l'un des... J'ai oublié de le noter, lui, Nicolas Ossard. Mais il était plus sur une autre recherche qui était sur les rapports au temps. Nicolas Ossard, il posait cette question-là dans les entretiens exploratoires. Si vous aviez un incendie dans votre maison, qu'est-ce que vous sauveriez ? Qu'est-ce que vous emporteriez avec vous ? Manque de peau, juste au moment où cette recherche commençait, j'ai eu un incendie dans ma maison. Et j'ai cessé de poser cette question parce que la réponse que j'avais donnée à Nicolas était parfaitement juste. Je lui ai dit, j'emporterai mon enfant, enfin les êtres vivants qui sont là, je les sortirai. C'est exactement ce que j'ai fait, mais et donc aucun objet au fond. Donc la question était peut-être un peu trop radicale. Ensuite, on s'est tourné vers des questions plus amusantes, telles que quel est l'objet le plus ancien que vous gardez et pourquoi. Donc, on a fait des photos, on a exploré différentes facettes du rapport aux objets au fil du temps. Parce que, évidemment, ce n'est pas le même rapport aux objets quand on est un enfant, quand on est un adolescent, quand on est dans la phase d'être des étudiants, donc nomades. Et ensuite, quand on s'établit, on fonde une famille, on a soi-même des enfants à son tour, etc., etc. C'est ce qu'on appelle les moments de rupture, les déménagements, les divorces, les changements de statut matrimonial, etc. L'idée était d'essayer de reconstituer les flux d'entrée et de sortie, et donc de catégoriser les propos sur les objets qu'on avait, quant à ces deux moments-là de la vie des objets dans l'environnement domestique. Entrée, sortie. Qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort, en volume, en qualité, et dans le désir aussi, dans les projections, dans ce qu'on aimerait avoir. Eh bien, vous avez ici... un inventaire des méthodes d'enquête, bien sûr les entretiens, la méthode des itinéraires d'objets, les récits de vie centrés dont je vous ai parlé, les monographies de maisonnées avec visite de toutes les pièces et photographies en nombre de ces... par exemple, nous le verrons plus tard, dans les couples, souvent, assez souvent... On a des profils différents, mais compatibles, de rapport aux objets. Il y en a toujours un, enfin toujours, quand c'est le cas, l'un corrige l'effet de l'action de l'autre. Et donc, si l'homme est un stalker qui aime s'entourer de plein d'objets, ben, la femme va tout faire pour désencombrer de temps en temps. L'équilibre est rétabli de cette façon-là, ou l'inverse. Ensuite, les observations de pratiques de troc et de dons d'objets, je vous montrerai par la suite de quoi il s'agit. Une étude assez succincte des sites d'Internet d'échanges de troc, de vente d'occasion, etc. Et une méthode du Théâtre Forum sur laquelle je ne m'attarderai point, mais qui est aussi disponible dans le rapport de recherche pour ceux que ça intéresse. Donc, ceux qui ont participé à cette recherche, Maxime Cordelier, Mathilde Olivier et Clément Poutot, étaient à l'époque doctorants, donc en 2014-2015, et maintenant, ils sont tous docteurs. Et certains d'entre eux, déjà post-doc ou ayant trouvé un emploi. Donc, ça, c'est les observations ponctuelles que j'avais mentionnées dans... L'utilitroc, c'était des opérations organisées par un syndicat de gestion des déchets dans les communes que vous voyez à droite, et puis aussi des observations dans une recyclerie à Vire. Une définition de style de vie alternatif, pour que vous n'ayez pas l'impression que je parle de choses sans leur donner une définition, ce sont donc des choix individuels, conscients, volontaires, sur un nombre significatif de pratiques qui se donnent consciemment pour différentes de la norme d'un groupe socio-économique de référence. Pensez au végétarianisme, par exemple. On ne devient pas végétarien par hasard. Il faut le vouloir. Donc, ça ne peut pas se produire par inertie, par contrainte ou par hasard, et nécessite des efforts pour être maintenu. Je pense que c'est une définition qui désigne une multitude de pratiques énormes. Toutes les pratiques que j'explore dans mes autres recherches et dans ma recherche personnelle, qui sont les vivre sans, entre guillemets, ça veut dire sans téléphone portable, sans voiture, sans chauffage, sans des tas de choses, tout existe. Donc, pourquoi je m'intéresse à ça? Parce que, au fond, personnellement, avec une vision quand même plutôt optimiste, je pense que même si nous sommes contraints par de nombreux éléments systémiques, comme par exemple l'aménagement du territoire, les modes de vie urbains, le niveau de revenus et j'en passe, il y a dans ces domaines-là une partie des choses sur lesquelles nous avons ou nous pensons avoir le contrôle ou nous cherchons à gagner le contrôle. Et donc, tout l'enjeu des transformations des styles de vie est là. C'est qu'on ne peut pas facilement changer le système de la gouvernance ou le gouvernement ou la politique ou l'économie. Mais quand il s'agit de notre vie quotidienne, de notre façon de consommer, de notre rapport aux objets, de notre rapport au temps même, c'était une autre recherche que j'ai menée qui s'appelait Moderato. Là, nous avons une marge de manœuvre, ou tout au moins nous pensons l'avoir, ce qui revient au même, du point de vue du sociologue. Le choix de style de vie alternatif lui-même n'explique pas ou n'est pas très lourd pour différencier les rapports aux objets. Donc, le style de vie alternatif se caractérise donc par un certain nombre de choix, de pratiques, manger bio, utiliser l'énergie solaire, dans le domaine de l'habillement, la consommation verte et l'alimentation, bien sûr, et des pratiques de tri, l'utilisation du vélo, etc. Donc, la différence que l'on peut faire, c'est entre des objets communs et des objets singuliers. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un certain nombre de livres, il y en a régulièrement, sur les bibelots, sur les objets d'affection. Ce sont l'inverse d'un objet commun, comme, je ne sais pas moi, une chaise ou quelque chose qu'on utilise sans trop faire attention à ce à quoi elle sert. Bon, cette distinction, elle traverse tous les terrains. Et puis, tous les objets en fin de vie, sont susceptibles de devenir des déchets. Donc, on peut les voir sous cet angle-là ou pas. Et la question était de savoir quels objets se transforment en déchets. Est-ce que l'objet singulier, par exemple, finit par se transformer en déchets ou pas? Et comment il arrive là? Quelle trajectoire il suit? Vous avez là une image d'un environnement désencombré. Donc ça, c'est l'après-désencombrement. Je vais montrer un petit peu comment on s'encombre et comment on se désencombre. On cache la profusion ou on la laisse s'exprimer dans le grenier. Il s'agit d'une même maison, hein, la pièce que vous avez vue, et ces deux coins, les recoins dans la même maison. Il y a le petit espace, le tiroir, bien sûr. On a aussi fait beaucoup de photos de tiroirs. C'est assez intéressant ce qu'on trouve dans les tiroirs. Énormément de matériel électronique non recyclable et non recyclé, et dont, ne sachant pas que faire, le tiroir devient ce que l'anthropologue Van Tring appelle un lieu de refroidissement. L'objet, avant d'être jeté, doit être refroidi. Et donc, la fonction du grenier était cette fonction de refroidissement. Il y avait dans des greniers qu'on a photographiés des coins dans lesquels les gens stockent des objets à donner ou à jeter, parfois pendant des années. Moi-même, je stockais les différentes générations d'ordinateurs. Et dans un autre travail que j'avais fait sur les NTIC, j'avais constaté que tout le monde fait la même chose avec les différentes générations de téléphones ou de smartphones. Ne sachant maintenant, bon, il y a de plus en plus d'initiatives pour reprendre les téléphones, pour faire de la location, etc. Mais ça, c'était il y a 10 ans, et non, il y a 5 ans, 7 ans. Ces attitudes-là, par rapport aux objets qui ont un certain prix ou qui ont une signification symbolique, comme les jouets d'enfants, comme le matériel, l'équipement électronique dans son évolution technique, et dont on sait confusément, on ne le sait pas très bien, qu'il ne sera pas recyclé ou que peut-être pourrait servir à quelqu'un d'autre. Donc, il est stocké et refroidi dans un tiroir ou dans le grenier ou dans le garage ou dans la cave. Comment on désencombre ? Eh bien, et ça, c'est un autre projet que j'ai pas encore mené à bout, mais dont j'ai commencé à rassembler des éléments, le nettoyage de printemps. Le nettoyage de printemps est une survivance anthropologique, justement, dans nos sociétés, parce que il correspondait à tout un tas de fêtes dont certaines sont devenues païennes et puis certaines sont devenues religieuses chez les chrétiens ou autres. La ritualisation comme une sorte de purification saisonnière du désencombrement maintenant est un petit peu mise à profit par les différents slogans publicitaires, mais comme toutes les fêtes qui sont investies par le domaine commercial, celle-ci n'y échappe pas. On crée des espaces, on enfouit ou on exhibe l'encombrement. Dans les foyers les plus pauvres, on exhibe l'encombrement. Chez les stockeurs, donc ceux qui ont tendance à se procurer un maximum d'objets et ne pas du tout jeter, on crée des espaces. On a rencontré des gens qui louent, qui ont changé de domicile, louent un hangar ou aménagent un hangar pour y stocker ou le garde-meuble pour y stocker des objets dont on ne veut pas se séparer. Les rapports de genre ou de sexe ne sont pas aussi définis sur le rapport aux objets en tant que tel, mais plus dans la relation, dans le foyer. Donc c'est l'unité domestique entre les parents, les enfants, ou même dans les familles monoparentales, entre le parent et les enfants ou l'enfant, que vont se distribuer les rôles dans le maintien d'un certain équilibre avec les objets. L'encombrement ordonné, l'encombrement moins ordonné, pour ne pas confondre le chaos ou le manque de rangement et l'encombrement. Ce n'est pas la même chose. Mary Douglas encore, que j'ai cité dans un ouvrage qui s'appelle « De la souillure », dans lequel elle parle en fait de l'avènement de la notion de pollution, et puis elle le relie à différentes cultures, en comparant différentes cultures en Inde, en Afrique, etc., propose cette définition que est sale ce qui n'est pas à sa place. Donc, un objet qui n'est pas à sa place. Je vous propose que l'on réaborde cette définition-là à la fin, car avec l'encombrement, ce n'est pas évident de la compléter en tant que telle, de la prendre en tant que telle aujourd'hui. Si on considère que, par ailleurs, le déchet est considéré comme sale, précisément pour les mêmes raisons. Donc, on encombre dans ces espaces, dans des boîtes, en se procurant des objets bon marché au vide-grenier, des achats d'occasion qui sont très fréquents, la récupération et l'incapacité à jeter. Je pense que vous avez là une description totale de ce que je fais moi-même avec les objets. mais probablement vous-même aussi.
Qu'on peut faire avec les objets, tout ce qu'on peut faire avec les objets, pour ne pas les jeter vraiment à la poubelle. Donc, on passe par les trois premières catégories avant de se résoudre à jeter,
et on s'y résout très difficilement. En fait, dans les quatre types que nous avons identifiés de rapport aux objets, il n'y en a qu'un qui jette facilement, c'est le style de vie opulent, c'est-à-dire bourgeois, c'est-à-dire riche, enfin aisé tout au moins, et assez indifférent aux questions d'environnement.
Le samedi matin, avant l'ouverture chez Emmaüs, il y a cette foule. À 9h, il y a une foule de gens qui attendent au portail. Emmaüs à Tailleville ouvre à 9h30.
Donc dès 9h, les gens se massent pour les bonnes affaires, pour récupérer des morceaux de choses, pour obtenir les meilleures propositions d'objets à sauver. En se baladant dans les allées d'Emmaüs, on voit souvent des gens qui viennent pour voir des objets qui fonctionnent comme autrefois, des objets qu'on peut réparer, qu'on peut transformer.
Beaucoup est déposé sur le trottoir pour les encombrants. Et dans la poubelle, on a aussi regardé ce qu'il y avait dans les déchetteries, dans la benne tout venant, parce que vous savez que dans les déchetteries officielles, on peut déposer des objets comme les peintures, les écrans de télévision et autres dans des endroits désignés, mais il y a une benne dans laquelle on jette tout ce qui vient. Ça s'appelle la benne du tout venant. Tout ça n'entre pas dans les statistiques sur les déchets ménagers. Et il faut savoir que dans les déchets ménagers, qui sont aujourd'hui entre 280 et 300 kilos par habitant et par an, suivant les estimations, la plus grosse part, pratiquement la totalité de la part qui est responsable de l'augmentation du poids des déchets ménagers, revient aux emballages. Ces quatre rapports aux objets, opulents, stockeurs, précaires et minimalistes, ils ont été définis sur deux axes, un axe horizontal et un axe vertical. L'axe horizontal met l'accent sur la profusion, c'est-à-dire quantitativement le grand nombre ou le petit nombre d'objets, ou la rareté d'objets. Sur cet axe, vous voyez à droite le type opulent et stockeur, et à gauche, évidemment, avec une rareté des objets, le minimaliste et le précaire, tout au moins en termes d'entrée et de sortie. Cette partie-là, la partie horizontale, est la partie la plus contrainte, en quelque sorte, par les différents facteurs que j'ai évoqués. C'est donc celle qui relève des modes de vie agrégés, de catégories socioprofessionnelles, de types déterminés par le revenu, par le niveau de diplôme, etc., et moins par le choix. C'est l'axe vertical où l'on fait entrer la décision individuelle, le désir et aussi l'action de contrôle que l'on peut avoir sur le nombre d'objets, sur la profusion et sur la rareté et sur ce qu'on fait avec l'argent. Bon, souvent, je me suis occupée de ce que les gens peuvent faire, de ce dont on se prive, alors que normalement, on ne devrait pas s'en priver. Suivant la courbe des revenus et ce qu'on devrait faire, plus on a de revenus, plus on consomme, etc. Les gens qui ont des revenus relativement élevés et qui refusent de consommer ceci ou cela, ou même massivement, parce qu'il y a aussi des initiatives de ce type-là, m'intéressent. Parce qu'ils pourraient faire plus et ils décident de faire moins. C'est le croisement de ces deux axes nous permet de mettre l'accent sur les flux d'entrée et de sortie des objets. Et vous voyez que chez les minimalistes, les objets qui entrent sont peu nombreux et ceux qui sortent sont très nombreux, relativement nombreux, mais ils ne vont pas à la poubelle ou sur le trottoir comme chez l'opulent, où les sorties sont également élevées. On se débarrasse de beaucoup d'objets, mais aussi on en achète beaucoup pour des raisons statutaires. C'est-à-dire on a un objet de grande qualité qu'on a acheté, un meuble, un appareil électroménager, et qui ne peut plus être utilisé, qui soit dysfonctionne, soit ne peut pas être montré, soit est battu en brèche par un objet meilleur, et donc du coup, le premier, il sort. Et il ne sort pas avec un souci forcément de qu'est-ce qu'il deviendra par la suite. Il est là sur le trottoir ou donné à des associations anonymes pour que justement on ne le transmette pas dans son propre réseau social comme c'est le cas chez les précaires ou chez les stockeurs, même à la rigueur chez les minimalistes. Dans la catégorie des opulents, il faut que le débarrassement, le débarrassage de l'objet se produise de façon anonyme, sachant que l'accumulation, elle est toujours là, parce que les objets sortent et rentrent. Donc, il y a un grand turnover. Chez les précaires, les entrées dans le sens de l'achat sont très peu nombreuses, de l'achat du neuf, pardon. Les sorties les moins nombreuses possibles, parce que on stocke et on accumule tout ce qu'on a pu récupérer par les différents canaux, achats d'occasion, dons, associations, etc. Donc, la récupération, si elle a lieu du côté des minimalistes, ça va être sur un plan esthétique pour jouer, pour détourner le sens de l'objet, de les présenter de façon esthétique. Vous allez en voir par la suite. Chez les stockeurs, vous avez cette catégorie du bricoleur qui se différencie de celle de l'écureuil, parce que l'écureuil stocke pour stocker, pour sauver des objets, pour les regarder, pour les avoir, pour en jouir, tandis que le bricoleur stocke pour essayer de se fabriquer des choses, éventuellement des choses d'avant qui n'existent plus, ou des choses qui sont à réparer ou à fabriquer pour soi-même et pour son entourage. Dans la catégorie minimaliste, mais aussi dans la catégorie stocker, nous pouvons avoir pas mal d'écolos. Mais vous voyez qu'ils ne sont pas dans une seule catégorie, les écolos. Vous ne les aurez pas chez les opulents. Une précision, ces types que nous avons définis ne sont jamais purs. On ne les retrouve pas à l'état naturel. Ce sont des types, je dirais pas des idéals types, parce qu'ils ont été reconstitués avec des données empiriques. Mais ce sont des types qui combinent, qui sont dans un continuum sur les axes que je vous ai montrés. Un continuum qui exprime une très grande variété des types mixtes. Mais vous ne trouverez pas de mixité entre... sur les diagonales en général, sur l'opulent et précaire s'opposent. Ici, on peut passer de l'écureuil au minimaliste. C'est possible. C'est toute la logique du désencombrement. On a également analysé le rapport à la consommation, évidemment, qui est très important. Et on a un petit profil de la stratification, petite classe moyenne, enseignants, beaucoup d'enseignants, savoir-faire de métier ou amateur, habitat rural, on comprend pourquoi, maison, parce que ça offre des capacités de stockage plus grandes. Il ne faut pas partir de l'idée que si ce n'est pas rangé, c'est encombré. Il y a des endroits où c'est la quantité d'objets qui fait l'encombrement, pas le fait que ce soit rangé ou pas. On le verra pour les collections. Le style opulent. Là, nous avons, par exemple, dans le type, trois catégories différentes. Il y a l'ethnologue qui va s'emparer d'objets pour leur authenticité, par exemple, une charrue qu'il mettra dans son jardin pour la sortir de son contexte initial, mais garder pour son authenticité, ou une cuillère en bois africaine, ou que sais-je. Il y a les brocanteurs qui achètent des objets de prix pour ensuite pouvoir les revendre. Et évidemment, le collectionneur qu'on a appelé comme ça, non pas parce qu'il collectionne les objets, mais parce qu'il regarde les objets comme un collectionneur. C'est-à-dire chaque objet a une valeur intrinsèque. Donc, ici, chez l'opulent, le désencombrement est régulier pour des raisons statutaires, comme je vous disais. Il faut que les objets soient au dernier cri, pouvoir être montrés, pouvoir avoir des qualités excellentes, voire les meilleures. La mode est un élément important ici. Le minimaliste, que j'ai aussi appelé ascète, il peut être ascète, c'est plusieurs catégories. Il y a l'esthète, il y a l'ascète, le fonctionnaliste, celui qui réduit donc les objets dans son environnement à seulement ceux qui sont totalement utiles, comme table, chaise, lit, pourquoi pas. Peu d'achats neufs, mais d'excellente qualité. Nous allons retrouver ici le top du top de la classe moyenne, au plus haut des revenus, avec des meubles de designer, avec des canapés en cuir blanc. Ce que Bourdieu, dans son analyse encore, aurait traité de froid et de peu accueillant. Et pour cette catégorie-là, ou pour ce rapport-là aux objets, très important. C'est-à-dire, il est très important de se battre contre les objets et que rien ne traîne, comme à l'hôtel, vous voyez. On a une certaine forme de légèreté d'être dans un environnement débarrassé de tout objet autre que esthétique ou utile. Un hôtel de luxe, hein, j'entends par là. Donc, le désencombrement est permanent et même c'est là la lutte la plus âpre qu'on a rencontrée contre les objets. C'est les « eux » ou « nous » hein, dont on a parlé. Et là, le désencombrement est pratiquement quotidien. Et enfin, le précaire, là, on agit en fonction du besoin essentiellement, mais pas toujours et pas nécessairement et pas obligatoirement. Mais c'est vrai qu'au fond, quand on regarde la trajectoire des objets du point de vue de la trajectoire, on s'aperçoit qu'en fait, les objets, ils n'ont pas de fin de vie. Pour le dire autrement, ils ont plusieurs vies. Une première vie, une deuxième vie, une troisième vie, et terminent leur vie toujours chez les plus pauvres. Ou dans cette catégorie-là de la population se débarrasse des choses, ce sont vraiment les débris qui ne peuvent plus servir à rien. Mais tant qu'ils peuvent servir, on les garde. Et on les garde en surnombre. On a une série de choses qui doivent être achetées neuves aussi, comme les habits, les NTIC, pour pouvoir montrer qu'on n'est pas si pauvre que ça. Mais pour le reste, justement, on a un environnement très, très encombré, paraît riche. Dans cette typologie que nous avons vue, on a forcément, nécessairement, je les ai indiqués, des types de consommation. Acheter plutôt d'occasion ou plutôt neuf, ou pas acheter d'ailleurs. Les compacteurs sont un mouvement qui a démarré en Californie, qui avait atterri aussi en France, mais qui n'a jamais eu de succès. C'était entre 2006 et 2012, quelque chose comme ça. C'est des gens qui ont fait une charte pour compacter, c'est-à-dire pour réduire au maximum la quantité des déchets. Et dans cette optique, l'un des engagements des compacteurs était de ne rien acheter de neuf pendant un an, sauf les produits d'hygiène et la nourriture produite localement. C'était assez drôle parce que sur le site internet, il y avait le journal d'un type qui avait renoncé à ça et qui pendant un mois, il a tenu un journal de type blog qui faisait vraiment désintoxication d'addicts. Ils se disent, oh là, aujourd'hui c'était dur, je suis passée devant un magasin, j'en avais envie, mais j'ai résisté. Je ne sais pas si c'était vrai ou ils voulaient seulement montrer que c'est difficile, parce que c'est vrai que ça l'est. Dans notre mode de vie urbain, ça l'est certainement. Si on habite à la campagne, c'est différent. Donc, l'encombrement n'est pas la seule dimension. Au fond, il y a, et vous le savez sans doute, de très nombreuses fonctions dans l'objet. Fonctions affectives, fonctions identitaires, fonctions statutaires, esthétiques, psychologiques, et que sais-je. On peut en faire une liste énorme. Donc, ce n'est pas du tout évident de savoir qu'est-ce qui préside, au fond, à cette circulation des objets qui se bloque. Parce qu'en fait, elle n'est pas fluide dans tous les intérieurs qu'on a visités, sauf quelques intérieurs minimalistes où, je vous dis, c'est une guerre de chaque jour. Il y a énormément d'objets. Je pense que ce qui préside à l'encombrement, outre le fait de se situer par rapport aux autres, parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est se situer par rapport aux objets, se situer par rapport au temps. Le rapport au temps, par exemple, est très important parce qu'il faut du temps pour s'occuper des objets. Donc si on veut avoir plus de temps, il faut avoir moins d'objets. Le rapport aux autres, c'est important aussi parce qu'on ne fait pas de choix ou de décisions individuelles. Tous les choix, toutes les décisions sont individuelles et sociales dans la mesure qu'ils sont orientés vers autrui. Ont une signification pour autrui, comme disait Weber, sociologie compréhensive. Donc, toutes ces choses-là sont liées dans le style de vie et dans le quotidien. Et donc, on se retrouve quand même avec le même paradoxe qu'on avait au début de mon exposé sur les bras. Jeter est un acte problématique. Jeter égale tuer. Sauver les objets, c'est s'encombrer. Bon, vous avez vu aussi qu'il y a de nombreuses voies pour se désencombrer. Encore faut-il y aller. Encore faut-il trouver ça acceptable qu'on transforme tout ou presque tout en déchets. Vous savez que dans ce qui est trié à la source, comme on dit, dans les plastiques par exemple, ou même dans les composants d'un téléphone portable, très peu est recyclé. Donc c'est vrai, on passe son temps à trier, mais derrière, ça ne suit pas pour le recyclage. Pour les plastiques, maintenant, on doit être à 50 quelques, ce qui n'est pas énorme. Et encore, tout plastique confondu, alors qu'il y a d'énormes différences entre les plastiques, etc. Donc, je pense que collectivement, nous sommes prêts à garder les objets, à les rendre plus durables, à lutter contre l'obsolescence programmée ou incorporée dans les objets. Vous savez que l'obsolescence programmée, c'est une obsolescence que l'on a payé des ingénieurs pour la mettre dans les objets, telle pièce qui se casse avant terme, etc. Alors que l'obsolescence peut être aussi, sans qu'elle soit programmée, elle peut être due à la qualité des matériaux, à la logique même de ce qui est produit, comme c'est le cas de beaucoup de produits importés de Chine, des sandales qui se cassent à la première utilisation. Ça laisse perplexe quand on regarde la sandale. Tout est bien fait. Enfin, tout est bien fait pour faire acheter le consommateur. Vous regardez l'objet et vous vous dites, mais ils se sont donné tant de peine pour assembler les choses, leur donner une forme, les coudre ou les coller. Pourquoi faire ça de sorte à ce que ça se termine en charpie de la première utilisation? Et donc, collectivement et du point de vue civilisationnel, on est confronté à ça. Parce que les ressources sont limitées, et on le sait, et on puise dedans. Et je pense que la réticence à jeter, elle est liée à cette conscience. C'est une conscience floue, c'est pas une conscience très claire, mais c'est une conscience que nous avons, que les objets ne sont pas facilement convertibles en déchets. Je reviens sur cette question de saleté et d'ordre. Ou de sale et d'ordre. Donc je vous disais que la définition de Marie Douglas, c'était que ce qui fait sale la saleté, la souillure, c'est le fait que l'objet soit déplacé. Je prenais l'exemple de manger à côté d'une basket. Ça paraît sale parce que la basket n'a rien à faire à côté de l'assiette. Et voilà. Donc, c'est ne pas savoir que l'objet ait l'air de ne pas être à sa place. C'est ça la définition du sale dans de nombreuses cultures. Alors, aujourd'hui, donc c'est la question de l'ordre pour Mary Douglas. C'est, quelque chose n'est pas en ordre. Et à ce moment-là, ça paraît sale. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt la question de la coordination qui est centrale que celle de l'ordre. Au sens où, dans la société qui est la nôtre, celle de la modernité tardive, le déchet ou le sale n'est pas ce qui n'est pas à sa place, mais ce qui ne peut pas trouver de place. Je terminerai là-dessus en vous laissant aussi... donner libre cours à votre propre perplexité et aux questions que vous pourriez me poser. Voilà, je vous remercie.